Aujourd'hui, la masterclass de Mathieu Pernot avec Aurélie Charron.
On rêverait d'avoir enregistré une masterclass à toutes les étapes de votre vie, Mathieu Pernot. Les masterclass, c'est donc une collection d'entretiens sur France Culture qui tente de comprendre comment un artiste travaille, comment il fabrique. Et chacun de vos projets semble avoir été pensé comme une expérience de vie à part entière, avec sa méthode à chaque fois. C'est difficile de définir votre travail avec ces deux mots qu'on emploie pourtant souvent, photographie, documentaire. Mathieu Pernot, vous êtes né en 1970 à Fréjus et vous avez eu confiance toujours en la personne que vous alliez devenir. On ne sait donc pas si photographe, c'est le mot définitif, on pourrait aussi dire archiviste, monteur, grand témoin. Depuis plus de 20 ans, vous avez suivi des communautés de tziganes et c'est en 1995, en photographiant la famille des Gorgans à Arles, que vous devenez photographe, en tout cas on en parlera. Vous êtes alors en deuxième année à l'École nationale supérieure de photographie d'Arles, dont vous serez diplômé en 1996. Après la force de cette famille photographique, les humains se sont fait un peu plus rares dans votre travail. Il y a des appartements vidés de leurs habitants, des barres d'immeubles prêtes à s'écrouler sous les explosifs, les murs d'une prison qui va fermer, un hôpital psychiatrique déserté. Vous poursuivez, Mathieu Pernot, les thèmes de la marge, de l'enfermement, des migrations. Vous avez ces dernières années réalisé plusieurs projets sur les migrants, depuis la jungle de Calais jusqu'à Stalingrad à Paris, toujours dans le souci d'aller voir ce qu'on ne voit pas et conscient de l'importance du hors-champ et de la périphérie. Vous faites face au monde et vous tentez de lui donner une forme à travers la photographie, mais aussi parfois à travers l'enregistrement, la voix, le témoignage, le document et même les images prises par d'autres. Votre geste, dites-vous, n'est pas militant, mais il est politique, citoyen. Vous êtes aussi un photographe fidèle, attentif au destin individuel, puisque la famille des Gorgans, vous leur avez consacré une exposition aux rencontres d'Arles en 2017, et vous les avez photographiés pendant toutes ces années. Et un jour, vous avez dit « La seule chose que je voudrais communiquer, c'est le sentiment de la vie ». Mathieu Pernot, est-ce que vous pensez souvent aux vies que vous auriez pu avoir ? Parce que vous étiez judoka de haut niveau, donc vous auriez pu, par exemple, être professeur de judo ?
Souvent, quand je repense à tout ce que j'aurais un moment dans ma vie souhaité être, effectivement, c'est un peu vertigineux, mais je pense que j'ai été finalement, comme beaucoup de jeunes, un moment qui s'interrogent sur ce que peut être leur avenir. Moi, il se trouve que j'ai eu des parcours de vie un peu différents. J'ai effectivement fait du sport à haut niveau à un moment, et donc quand on fait du sport à haut niveau, et ben on se dit que ça sera sans doute ce qui va occuper sa vie à part entière. Et puis j'ai fait des études scientifiques aussi, donc j'étais victime de ces études parce que je ne suis absolument pas scientifique, c'était assez pénible, mais j'en ai fait un petit peu. Là, pour le coup, en comprenant assez vite que c'était pas ce qu'il fallait que je fasse, mais je pense que la photographie m'a permis justement de vivre toutes ces vies que je ne pouvais pas vivre, parce qu'elle m'a mis au contact de gens, d'univers, qui n'étaient pas les miens, en général qui étaient assez éloignés des miens, mais que je rêvais peut-être de rencontrer. Et si je n'avais pas été photographe, je n'aurais peut-être eu qu'une seule vie. Là, j'ai effectivement l'impression d'en avoir plusieurs. Et quand je suis avec les Gorgans, j'ai l'impression d'en avoir une. Quand je suis, c'est le cas en ce moment, avec des migrants qui ont des histoires très différentes, j'ai l'impression d'avoir une autre vie. Et je pense que c'est peut-être la... Oui, ce qui finalement m'intéresse le plus dans la photographie, c'est sa capacité à nous mettre en face et au contact d'un monde qu'on ne rencontrerait sans doute pas si on n'était pas photographe.
Et alors, en 1992, quand vous vous présentez devant les examinateurs de l'École nationale supérieure de photographie à Arles, vous avez une phrase assez étonnante. « Ne regardez pas qui je suis, mais qui je vais devenir. » Donc, elle venait d'où cette certitude ?
Non, non, c'était surtout le constat que j'étais complètement nul, en fait, et que eux-mêmes le faisaient, ce constat. C'est-à-dire, moi, je me souviens très bien, quand vous passez le concours pour l'école d'Arles, il faut que vous présentiez un portfolio d'images. Et en fait, j'avais fait très peu de photographies. Et le peu de photographies que j'avais faites, enfin, quand je les revois maintenant, c'est vraiment complètement consternant. En fait, c'est exactement ce qu'il fallait pas faire. J'ai encore très bien à l'esprit le visage des examinateurs que j'avais en face de moi, qui étaient en fait les professeurs de l'école d'Arles et les directeurs, je pense qu'ils voyaient assez peu de portfolio comme celui-là. Enfin, il était vraiment étonnant, mais par sa nullité.
Il y avait quoi à l'intérieur ?
Bon, il y avait un peu de tout, en fait. Il y avait des photos de nu, il y avait des photos d'architecture, il y avait, enfin, tout ce que je n'ai pas fait par la suite, mais je ne savais pas, je n'avais pas les codes je ne venais pas d'un milieu, d'une famille où je n'avais pas fait des études, qui me permettait d'avoir des clés qui m'auraient aidé effectivement à comprendre qu'un travail, ça se construit autrement. Je ne le savais pas. Par contre, j'avais une envie, une énergie, une conscience de ce que j'étais. Et donc, effectivement, la seule carte que je pouvais jouer, c'était celle-là. C'était de leur dire, effectivement, peut-être que, voilà, là, j'ai bien conscience de ne pas être au niveau des autres candidats. Mais soyez sûr qu'au niveau de l'envie que j'ai, je pourrais peut-être compenser le manque qu'il y a actuellement. Donc voilà, alors c'est une phrase des fois qui est répétée, je ne sais plus c'est en quel terme je l'ai formulée exactement, mais en tout cas il y avait effectivement cette détermination, voilà, de se bagarrer, d'essayer de faire quelque chose, en sachant que ça ne serait pas facile. Moi j'étais très complexé quand j'ai commencé mes études de photographie à l'école d'art, parce que j'avais l'impression que j'avais à côté de moi des gens effectivement qui avaient des pratiques qui n'étaient pas du tout les miennes. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour me débarrasser de ce complexe et de me dire qu'il y avait sans doute autre chose à cultiver, qu'il y avait peut-être aussi une force dans ce manque-là, et qu'il fallait que je trouve dans le monde, en fait, ce qui peut-être me manquait à moi dans ma culture et dans les pratiques que j'avais pu avant de faire de la photographie. Et voilà, et finalement, ça a plutôt été une force, un moteur. En tout cas, la conviction qu'il y avait sans doute des choses à raconter dans le monde qui était autour de moi.
Et cette certitude, je vais devenir photographe, c'est ce que vous appelleriez la vocation ?
Non. Enfin, je pense que c'est les événements de la vie qui font qu'on devient quelque chose aussi. Alors, c'est vrai que dans ma famille, il y a un peu une mythologie liée à la photographie. Mon père et mon grand-père étaient photographes amateurs, avertis, mais amateurs. J'avais un arrière-grand-père, Léon Pernaud, qui lui a été photographe, qui a eu à Vesoul à un moment un studio de photographie, une boutique. Et on a retrouvé dans des vieilles caisses des photographies de famille signées Nadar. En fait, il avait travaillé un moment à Paris dans les studios Nadar, à l'époque où Nadar était une grosse entreprise qui faisait travailler beaucoup de photographes. Donc la photographie a toujours été présente dans une espèce d'imaginaire familial. Après, je dirais qu'il y a eu quelques événements qui ont eu leur importance, et notamment lorsque j'étais en internat à Nice. Voilà, j'ai décidé de faire un travail photographique qui était un petit projet. Et donc, en noir et blanc, j'ai photographié l'internat dans lequel j'habitais. C'est le parc impérial à Nice, qui est la dernière. Enfin, c'est un bâtiment qui avait été conçu par le dernier tsar de Russie, Nicolas II. C'est un bâtiment somptueux quand vous le voyez l'extérieur, avec une vue incroyable quand vous êtes dedans. Par contre, l'intérieur, c'était vraiment autre chose. Et donc, j'ai photographié les couloirs, les dortoirs, les feuilles des personnes qui dormaient dans les dortoirs avec les noms inscrits dessus. Enfin voilà, j'ai fait un travail en noir et blanc. Finalement, qui, quand on connaît le reste, était assez annonciateur de ce qui allait venir. Mais je l'ai fait aussi assez innocemment. Et puis j'ai donné des photographies à des proches, à des amis. Puis j'ai eu des bons retours. Et quand on est adolescent, j'avais 15 ans, 16 ans, et qu'on a des bons retours, on se dit, tiens, bah, peut-être que la photographie, c'est effectivement quelque chose qui peut compter. Donc je ne les ai jamais exposées. Mais un jour, enfin, quand je les revois maintenant, je me dis qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Enfin, c'est les photographies avant d'être photographe. Mais je pense qu'il y a quelque chose, finalement, qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le travail que je fais, enfin, à différents niveaux.
Et vous parlez de cette pratique amateur présente dans votre famille. Est-ce que les préoccupations de vos parents, je crois que votre mère était assistante sociale, votre père était ingénieur dans le bâtiment, mais vous disiez qu'ils avaient la préoccupation des invisibles, en tout cas de ceux qui étaient un peu à la marge. Est-ce que ça vient d'eux ?
Oui, moi j'ai grandi sur la Côte d'Azur dans un cadre qui était un peu particulier, mais j'ai effectivement dans ma famille proche, enfin avec mes parents en tout cas, j'ai toujours entendu le fait que j'avais de la chance, j'étais privilégié, que c'était pas le cas de tout le monde, qu'il fallait être attentif aux autres, mais c'était vraiment de l'ordre de l'éducation, voilà, d'une éducation de gauche traditionnelle, disons. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai toujours grandi et je me suis un peu construit avec ça, surtout que dans les gens que je fréquentais, tout le monde n'avait pas forcément cette éducation-là, et j'ai compris, voilà, assez vite qu'effectivement, il y avait des choses qui étaient aussi intéressantes dans ce qu'on ne voyait pas ou dans ceux qui n'avaient pas la chance de vivre au cœur, au centre du monde, qui n'avaient pas le pouvoir. Et voilà. Mais ça, c'est simplement une sensibilité en fait qu'on m'a transmise quand j'étais jeune. Donc effectivement, ça m'a, d'une certaine façon, je pense que ça m'a construit. Mais je pense que tout le travail que je fais, même si effectivement, bien souvent, la marge est présente, je pense que c'est pas du tout, enfin, si, évidemment, lié à une éducation, mais je pense que je n'ai pas l'impression de faire une bonne action, où je ne suis pas effectivement dans une tradition humaniste de la photographie qui tendrait à penser qu'on fait la photographie pour sauver le monde ou pour aider les gens qu'on photographie. Moi, j'ai jamais pensé, pardon, je vais peut-être un peu vite là dans les, mais en tout cas, c'est pas comme ça que je la conçois, mais effectivement, cet héritage-là, cette éducation-là a compté quelque part dans mon parcours.
Et pourquoi la photographie, cette forme d'art-là, pour prendre la parole au départ? Est-ce que c'était aussi un besoin physique de prendre des images?
Oui, je pensais à plusieurs choses. Il y a déjà le fait que je suis quelqu'un d'assez solitaire, timide. Et je pense que la photographie a été le médium qui m'a permis de rencontrer des gens, d'aller voir des gens que je n'aurais pas rencontrés si je n'étais pas photographe. Et après, c'est vrai qu'il y a... Enfin, c'est un besoin physique, une traduction physique. C'est-à-dire que j'ai... À un moment, je vois des choses... Et je me dis, mais ça, c'est une photographie. Et des fois, je rate les photographies parce qu'elles sont liées à des événements précis qui ne sont pas reproductibles. Et là, j'en suis malade. C'est-à-dire que je me dis, mais j'ai raté cette image. Ça m'est arrivé récemment. J'ai raté cette image alors que j'avais tout pour la faire. Je n'ai pas réussi à la faire. Et donc, il y a effectivement une espèce de...
Ça se traduit comment, physiquement?
Non, c'est une envie, c'est un besoin. Je suis habité par ça, et une fois que la photographie est faite, je n'y pense même plus. En fait, elle n'existe plus, en fait, d'une certaine façon. Mais tant qu'elle n'est pas faite, elle est. Voilà, je ne pense finalement qu'à ce besoin de la faire exister. Et par contre, quand je rate le coche, alors là, je me débarrassais jamais de ce fantôme-là et de cette perte-là. C'est-à-dire que ça continue de m'habiter. Alors j'essaye de le traduire en onde positive, c'est-à-dire en le transformer en moteur pour faire d'autres choses. Mais il y a effectivement ce besoin à un moment de dire, là, il faut qu'il y ait une photographie qui existe pour raconter cela.
Il y en a beaucoup, des photographies fantômes qui n'ont pas existé?
Il y en a quelques-unes. Il y en a une récente. Il y a un mois, le père de la famille Gorgon, Johnny, que je photographie depuis très longtemps, est mort. Et donc, j'étais bien sûr présent à ses funérailles. J'ai veillé le corps avec tout le monde. Je n'ai vu que des images passer devant moi et je n'ai pas été capable d'en faire une, en fait. J'aurais pu, hein, personne, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, les gens de la famille m'ont même dit après, tiens, c'est marrant, tu n'as pas fait de photo. Et je me suis retrouvé dans une espèce de position impossible où à la fois j'avais le besoin de faire cette image très importante et en même temps je me disais que je ne pouvais pas la faire parce que cette fois Johnny n'était pas là pour m'autoriser à la faire. Mais c'est vraiment dans ma tête que ça s'est passé. Et donc j'ai passé des heures à ses côtés avec les gens à partager ce moment de deuil et je n'ai pas réussi à faire cette image. Et au moment où je suis reparti, je me suis dit mais vraiment. T'as raté peut-être l'image la plus importante, qui était celle de la disparition de cet homme, qui incarnait beaucoup de choses dans cette histoire, la présence de toute sa famille autour. Ben voilà, je ne pourrais plus la refaire. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans la photographie, c'est-à-dire dans la vie, il y a des moments qui ne sont pas reproductibles. Et des fois, il faut être quelque part, à un instant précis, et il ne faut pas rater ce moment. Et si on le rate, ben voilà, c'est fini.
Peut-être qu'on peut parler, Mathieu Pernaud, de cette famille des Gorgons, parce que c'est eux qui vous ont rendu photographe, peut-être, ou en tout cas, vous les avez rencontrés quand vous êtes en deuxième année de l'école à Arles. Vous avez 25 ans. Je crois qu'ils sont sur un terrain entre le Rhône et la gare de fret de la ville à Arles. Vous apercevez les enfants d'abord, et puis vous vous approchez. Comment vous vous présentez? Est-ce que vous vous présentez déjà comme un photographe?
En fait, d'abord, je ne me présente pas, c'est-à-dire que je passe devant le terrain et j'étais assez naïf, je n'avais aucune idée de leur culture, du fait qu'ils parlent une autre langue, et quand j'arrive au niveau du terrain, je me dis, mais je peux tout faire sauf y aller avec mon appareil photo. Donc je m'installe un peu plus loin et c'est eux finalement qui viennent me voir et qui me ramènent sur le terrain. Et effectivement, quand je suis sur le terrain, je me présente très vite comme photographe. Et ça me fait rire quand j'y pense. Maintenant, j'avais amené un petit photopoche de Joseph Koudelka. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais pas du tout l'intention de faire la même chose. Enfin, de toute façon, c'est impossible. Mais je me souviens donc du coup de leur dire voilà, bah, vous voyez, il y a des histoires en photographie intéressantes. Cet homme, il est parti dans les pays de l'Est, il a vécu avec des familles. Moi, je suis étudiant, j'aimerais beaucoup faire des photographies avec vous, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors oui, nous sommes d'accord, mais tu fais les enfants. Et voilà. Bon, ça a commencé comme ça. Donc j'ai d'abord photographié les enfants, mais j'ai apporté les photos le jour d'après, et puis j'y suis allé très régulièrement. Mais j'ai pas voulu me présenter autrement que ce que j'étais avant tout, c'est-à-dire photographe. C'est-à-dire j'allais les voir avec l'envie de faire des images, et s'il n'y avait pas eu la photographie, je ne serais pas allé les voir. Donc j'ai pas voulu tricher par rapport à ça.
Et qu'est-ce qui fait que c'est une famille photographique, comme vous dites, et que vous avez eu la sensation très forte que si vous arrêtiez de les photographier, il faudrait arrêter la photographie?
Ça, c'est un mystère. Hein. J'essaie pas non plus forcément de l'analyser beaucoup, mais je pense que des fois, on reconnaît dans le réel des choses qui nous parlent pour plein de raisons différentes, mais en même temps, voilà, il y a quelque chose qui est une forme d'évidence. Eux, c'était leur force d'incarnation qui, pour moi, évoquait beaucoup de choses. Enfin, je vais pas lister l'intérêt que je pouvais avoir pour des communautés qui étaient comme ça un peu à la marge et qui pouvaient être liées à celle-là. Mais en tout cas, j'ai vu des individus dont il y avait une espèce de présence magnifique au temps présent, une espèce de beauté, de grâce, de brutalité en même temps. Et voilà, ça a été une évidence, une espèce de coup de foudre compliqué parce que on n'est pas les mêmes. Il faut arriver à se comprendre. Il faut arriver à faire en sorte que la relation dure, qu'elle soit équitable, c'est-à-dire qu'elle soit, même si on est très différents, qu'il y ait une symétrie possible, que j'aille chez eux au même titre que eux puissent aller chez moi. Donc voilà, les choses se construisent petit à petit, mais comme une relation finalement, une autre relation affective, avec des règles un peu particulières, puisque je suis photographe, je fais des expositions, je fais des livres, ils sont ce qu'ils sont, je suis ce que je suis, donc ensemble, il fallait un peu en parler, sans le définir très précisément, mais essayer de voir comment on pouvait construire ce travail ensemble.
Et comment elle s'est inventée, cette méthode de travail? Parce que justement, elle s'est inventée avec eux, au fil du temps, et j'imagine qu'elle a évolué aussi, s'il y a échange, qu'est-ce que vous donnez vous et qu'est-ce que vous donnez au fil du temps? Le premier jour, vous arrivez avec un photopoche de Koudelka, et ensuite?
Le lendemain, je reviens avec mes photographies des enfants que j'ai faites la veille, et du coup, le père me demande de le photographier. La relation, elle s'invente constamment, mais même aujourd'hui, elle continue de s'inventer, mais elle s'invente aussi au gré des événements de la vie qui arrivent à chacun. Et être photographe, encore une fois, dans mon cas, c'est pas juste le temps de la prise de vue qui est très court. Les Gorgons, je les vois peut-être 4 jours par an quand je vais à Arles. Mais la relation que j'ai avec eux, elle est chaque jour, d'une certaine façon, de l'année. Il faut être là. Donc voilà, il faut l'inventer à chaque fois. J'ai pas de règles, eux non plus. Et on essaie de faire au mieux ensemble.
Tout à l'heure, vous disiez, je suis pas un photographe humaniste, mais il y a quand même cette obsession d'être utile. En tout cas, la conscience peut-être aussi que la photographie documentaire ne règle pas les problèmes humains des personnes qu'on suit. Et très vite, vous avez créé une association quand vous les avez rencontrés, qui s'appelle IACA, pour les aider dans leur lien avec les institutions, aider la scolarisation des enfants, être médiateur de justice. Pourquoi c'était important en parallèle de cette position de photographe?
Mais c'est important parce que quand on est proche de gens qui sont dans des difficultés, on essaye de trouver une façon de les aider. Donc, alors j'en parle effectivement maintenant, j'en parlais pas trop à l'époque parce que je voulais surtout pas donner l'impression que j'essaie de légitimer un travail photographique par une action sociale ou l'inverse aussi. Quand je les ai rencontrés, ils étaient dans une situation qui était dramatique. C'est-à-dire que tous les enfants, j'en parle maintenant, je pouvais pas le faire à l'époque, mais tous les enfants de la famille respiraient de l'essence. Pas que de cette famille, hein, de tous les enfants de la communauté. Enfin, c'était vraiment terrible. Devant les parents, qui manifestement ne disaient pas grand-chose. Personne dans la ville ne faisait le lien. Évidemment, tous les enfants n'étaient pas scolarisés. Donc, c'est là où je me suis dit, j'ai fait une association. Donc, j'ai fait des cours de judo. Et voilà. Et après, il y a eu des moments difficiles. Les enfants ont été placés. Moi, je suis absolument pas médiateur de justice. Je sais pas faire. Mais il se trouve qu'à un moment, quand il y a des difficultés et que ils sont séparés d'une institution qui ne les comprend pas, il faut essayer de faire le trait d'union. C'est très compliqué. Mais ça fait partie de la vie, en fait. Donc, bien sûr qu'il y a un engagement très fort, mais c'est un engagement de personne, d'un individu, vis-à-vis de proches. Pour moi, c'est pas l'engagement d'un photographe Et c'est différent, enfin, je ne l'associe pas, mais je les ai rencontrés par la photographie, on est devenus proches, et même quand je ne fais pas de photographie, ou même pendant 10 ans, j'ai décidé de ne plus en faire avec eux, j'étais quand même à leur contact, et utile si quelquefois je pouvais l'être.
Et dans votre pratique de photographe, notamment avec la rencontre des Gorgons, très vite est arrivée l'idée aussi d'autres disciplines et d'autres matériaux, parce qu'en 97, vous tombez sur une image qui vous fait penser qu'il y a l'existence d'anciens camps de concentration de tziganes en Camargue. Et là, ça va être un travail photographique, mais surtout une enquête historique dans laquelle vous vous lancez. Et les photos vont incarner cette enquête, cette recherche historique.
Alors c'est vrai que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de ne pas comprendre le fait que personne avant moi n'ait pu faire certaines choses et que je me retrouvais à une place qui n'était pas la mienne, en fait. Et c'est vrai que donc avec les Gorgons, en discutant avec le patriarche à l'époque, le père de Johnny, Bichika Gorgon, il me raconte qu'il a été déporté en Allemagne, il me montre des documents, d'archives, donc je suis très touché, ému, impacté par ce que je vois. Et du coup, effectivement, je m'intéresse à l'histoire de cette communauté, mais en France, et je me rends compte qu'en Camargue, à 15 km de là où j'habitais, il y avait effectivement eu un camp d'internement pour tziganes avec une histoire complètement incroyable derrière, de propagande, enfin voilà. Et surtout, j'apprends qu'il y a des archives qui sont conservées aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. Donc j'y vais, et là je découvre à peu près 300 carnets anthropométriques, avec donc des faces profils des anciens internés qui sont là. Je regarde les noms, et très vite je me dis, mais à mon avis, il y a des liens, et je peux peut-être retrouver ces gens. Mais c'est la première chose qui m'étonne, c'est qu'il n'y a sur le site du camp, il n'y a rien qui rappelle l'histoire passée, que je n'en avais jamais entendu parler des historiens locaux et que les familles elles-mêmes, tziganes que je connaissais, n'en parlaient pas. Donc il y a une première interrogation qui est de me dire comment cela peut-il se faire que personne n'en ait parlé. Et donc effectivement, je fais un travail d'enquête, un travail d'historien. Avec une grande modestie de photographe, c'est-à-dire que je me dis pas, je vais pas jouer avec ça, je vais pas essayer d'en faire une œuvre. Il est important d'être sérieux, de donner à voir et à comprendre ce qui s'est passé ici, donc de faire travailler, d'impliquer dans le projet deux historiennes, spécialistes de cette époque, et pendant 2 ans de sillonner la France et de retrouver ces fameux internés, et surtout de savoir s'ils avaient quelque chose à dire et s'ils avaient envie de le dire et de comprendre pourquoi ils ne l'avaient pas fait. Et donc tout ce travail, c'était à la fois effectivement de raconter cette histoire, mais de poser la question finalement de ce que c'était que l'histoire, l'historiographie, et comment raconter l'histoire de ceux qui ne la racontent pas. Les tziganes ne sont pas dans l'écrit, ne sont pas dans le monument, dans le musée, dans la revendication. Et donc il fallait trouver une façon de raconter cette histoire. Et c'est là où j'ai fait des enregistrements sonores, où on les entend avec leurs mots, avec leur façon de chanter le français, raconter cette période de façon très précise. Ils avaient des mémoires que j'ai vérifiées, des détails historiques étaient toujours parfaitement justes. Et donc j'ai construit ce livre, cette exposition qui s'appelle « Un camp pour les bohémiens », et qui est effectivement le seul ouvrage qui existe sur cette période-là et qui a été réalisé à partir d'archives trouvées et surtout avec des gens vivants qui, à l'époque, pouvaient encore raconter l'histoire. Ça n'est plus possible maintenant parce que les gens ont disparu.
Mathieu Pernaud, vous dites que vous ne vous promenez jamais vraiment avec votre appareil photo autour du cou. Et vous dites aux jeunes photographes qu'il vaut mieux avoir une idée précise en tête. Comment y surgissent les sujets? Comment surgissent les idées? Les idées précises?
Eh bien, en se rendant disponible à ce que l'on voit, je ne saurais pas répondre à cette question. Je pourrais y répondre précisément pour chaque projet en disant, là, à un moment, j'ai vu quelque chose et du coup, j'ai réfléchi à cette chose et ça a donné naissance aux implosions, aux projets à Calais, avec les migrants, avec les Gorgons. Mais moi, c'est vraiment un processus de reconnaissance visuelle avant tout. C'est-à-dire que je vois des choses, je vois des images. Et après, effectivement, je n'arrive jamais à faire une image au moment où je la découvre, en fait, bien souvent. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un temps de réflexion, d'un temps de digestion, de savoir ce qui serait intéressant de faire en termes de représentation de ce que j'ai vu, et de penser effectivement une forme, des formes, parce que bien souvent il y a des formes qui discutent les unes avec les autres, pour mettre en image ou construire un récit à partir de cette première chose que j'ai pu voir, mais que j'ai pu voir de façon très différente.
Justement, après le travail sur la famille des Gorgons, on le disait, il y a moins d'humains Comme si cela était si puissant que après c'était difficile de peut-être d'en photographier d'autres. Vous interrogez plutôt sur les lieux. Je pense par exemple à la prison, à ces portes de cellules, puis ensuite à ces murs de la prison de la santé qui va être détruite. Là, par exemple, ça part de quoi ? Ça part d'une image de ces lieux, d'un fait d'actualité, de...
En fait, là, d'une part, ça part d'un épuisement du portrait, de la confrontation aux gens, de l'investissement que ça demandait. Alors, il faut savoir que j'ai photographié les Gorgans, mais je suis aussi parti plusieurs mois en Roumanie, dans le cadre d'une bourse de la Villa Médicis, où j'ai vécu avec des Roms pendant 3 mois. C'était une expérience particulière. Il y avait effectivement le travail sur le cancellier. Et à un moment, j'ai eu l'impression que j'étais cuit. Enfin, je ne pouvais plus faire de portrait, c'était plus possible. Et qu'il fallait même que j'arrête de travailler avec ces personnes, enfin avec cette communauté, et qu'il fallait passer à autre chose. Et en fait, là, alors là, c'est le, disons que le passage, disons d'un travail à un autre, il est un peu plus intellectuel dans le sens où quand je travaille sur le camp de Salier, je me pose la question de l'enfermement, je lis Michel Foucault, le panoptique, la question du regard, de la surveillance. Et je me dis que c'est peut-être intéressant d'interroger, en fait, mais du point de vue de l'architecture, les lieux de surveillance et les prisons en particulier. Donc, le projet, voilà, c'est vraiment au départ, là, plutôt une lecture, c'est pas une image, qui m'amène à aller dans les prisons avec des idées complètement farfelues. Hein, c'est-à-dire que je lis Foucault et du coup, je me dis, en fait, ce qu'il faut faire, c'est des photos aériennes des prisons. Donc j'ai commencé par demander si c'était possible de survoler en hélicoptère des prisons pour faire des photos. Bon, voilà, ça n'a pas marché. Et en même temps que donc c'était une époque où on construisait pas mal de prisons, à ce même moment, en fait, on démolissait des barres d'immeubles. Et je me disais qu'il y avait peut-être un double mouvement qui était intéressant entre la destruction de ces barres de logement dans les banlieues et la construction de ces prisons. Donc ce sont deux projets que j'ai commencé en même temps. Mais encore une fois, quand je commence le projet, j'ai une idée différente de ce qu'il va être à la fin. C'est-à-dire que quand je fais les prisons, je n'imagine pas que je vais faire les hurleurs. Et quand je photographie les implosions, je ne sais même pas qu'il y a des cartes postales de ces immeubles qui ont été construits. Donc après, j'avance un peu comme un chercheur. C'est-à-dire qu'en même temps que je fais des photographies, j'essaie de ne pas m'enfermer dans un dispositif, d'élargir le plus possible le champ des questions, de défaire le travail au fur et à mesure que je le fabrique et de le remonter peut-être avec des éléments nouveaux qui n'étaient pas prévus au départ.
Et ça dure combien de temps, ce processus ? Par exemple, sur les prisons ou sur les grands ensembles ?
Ben, je ne sais pas, en fait. Là, je me suis dit, sur les grands ensembles et les prisons, là, je me suis dit, c'est fini, j'arrête. Je m'étais dit ça avec les Gorgans à un moment. Mais j'ai l'impression, effectivement, sur les prisons, l'exposition qui est présentée au 104, voilà, je pense que cette fois, j'ai bouclé la boucle en montrant les images de ceux qui sont dans les prisons.
Vous avez pris des photographies des murs, des cellules, des prisonniers.
Mais c'est surtout que j'ai décollé, en fait, toutes leurs photographies. Et j'ai réinstallé ces photographies, en fait. Et donc, le travail qui a été fait, c'est que je suis passé dans toutes les cellules, j'ai inventorié l'intégralité des graffitis qui étaient écrits sur les murs, et j'ai pris pour chaque cellule l'ensemble des images qui étaient accrochées après le départ des détenus. Ce sont pas des images personnelles, hein, ce sont bien souvent des images de magazines qu'ils avaient laissées. Ce qui a été présenté au 104, ce sont ces photographies qui sont réinstallées. J'ai eu l'impression de finir le travail sur les prisons et sur les grands ensembles. Il y a une exposition qui est présentée à Milan dans laquelle j'ai travaillé à partir de plans d'architectes sur lequel j'ai collé des photographies de l'immeuble qui est représenté dans le plan, en fait, voilà. Et là, en retournant sur le plan, qui est encore la couche d'avant la carte postale, je me suis dit, c'est là, voilà, c'est fini. Et puis j'ai d'autres envies, en fait, surtout. Et je suis plutôt dans cette période-là en ce moment. J'ai plutôt envie de balayer tout ce qui a été fait avant et de faire autre chose.
Et pour ces projets-là, en quoi c'était important de travailler aussi avec des images ou des photographies dont vous n'étiez pas l'auteur? Vous parliez de ces images dans la prison. Il y a aussi cette collection donc, de cartes postales, Le meilleur des mondes, sur ces grands ensembles qui étaient des cartes postales des années 60, sur l'utopie qu'on avait de ces ensembles-là. En quoi ça a résonné avec vos propres photographies ?
En fait, il se passe souvent une chose, c'est que très vite, je m'ennuie de mes photographies et j'éprouve le besoin d'autre chose. Mais très vite, j'ai la nécessité de les faire. Une fois qu'elles sont faites, c'est comme si elles n'existaient plus et qu'elles n'étaient pas suffisantes. Et donc, quand j'ai fait au départ le travail sur les grands ensembles de démolition de Bardi Meubles. Je ne voulais que ça. Et je pensais que ce qui était fort, c'était justement de ne pas avoir autre chose que la violence de la destruction, sans la contextualiser, sans la mettre en perspective avec ce qu'il y avait eu avant. Et finalement, quand j'ai découvert les cartes postales, je me suis dit qu'il était intéressant de les mettre en relation. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est de construire des récits en confrontant des corpus d'images qui n'ont pas été faits forcément au même moment, dans les mêmes usages, mais en tout cas de rendre les images dialectiques et de les faire discuter les unes avec les autres. Et ça peut être effectivement à partir d'images dont je ne suis pas l'auteur, sur des registres très différents, mais il y a quand même une chose qui est très importante pour moi, c'est de continuer à faire de la photographie. Je sais que c'est une tentative des fois présente, enfin dans l'art contemporain aujourd'hui, mais pour moi il est important de continuer à photographier le monde d'aujourd'hui et d'avoir un discours sur ce monde et de se confronter à lui.
Est-ce qu'un projet répond toujours au précédent ? Le camp des Tziganes vous a donné envie d'aller en prison, la prison vous a peut-être donné l'envie de questionner l'architecture, les grands ensembles. Est-ce que ça...
Oui, je pense qu'il y a forcément des liens qui s'établissent. Moi, je sais parfaitement qu'il y a des endroits où je n'irai jamais, il y a des gens que je ne photographierai jamais, et je pense qu'il ne faut pas forcément aller au-delà de la ligne d'horizon qui est la sienne, et qu'il vaut mieux essayer de creuser précisément des histoires. On a un peu tendance, enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, avec la circulation des images, avec Internet, on peut tout faire, tout le temps, tout envoyer en permanence. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire, en fait, quand on a un point, un moment qui est intéressant, il faut le creuser, il faut le creuser, il faut le creuser, il faut aller le plus profondément possible. Et en même temps, faut plonger verticalement, mais il ne faut pas s'empêcher d'être un peu transversal et d'aller voir un peu ce qui se passe à côté, et effectivement de voir les liens qu'il peut y avoir entre les différentes choses. Moi, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le montage et le démontage, c'est-à-dire qu'à un moment je fais quelque chose et je vais le démonter pour le remontrer autrement, pour le faire dialoguer avec un travail qui a priori n'a pas été conçu pour être mis en regard de celui-là. Donc effectivement, il y a souvent des choses qui discutent, même si il m'arrive des fois de faire des choses dont j'ai du mal à les mettre en perspective avec le reste. Enfin, même si je peux le faire, mais des fois je suis un peu étonné moi-même de voir des choses, mais qui sont peut-être plus à la marge dans ma pratique.
Et si on part avec une idée précise, est-ce qu'on a toujours l'idée de la forme que l'œuvre va prendre ? Par exemple, si vous partez dans la jungle à Calais, vous savez que vous allez travailler sur la migration, sur les migrants. Est-ce que vous savez quelle forme, déjà, ça va prendre ?
Oui, mais je me trompe, en fait, bien souvent, et ça ne marche que quand on se trompe, en fait. C'est-à-dire que c'est important d'avoir une idée très précise, de savoir ce que l'on cherche, mais il faut surtout être en capacité de se laisser prendre par autre chose et de voir autre chose que ce qu'on avait prévu de voir. Et d'ailleurs, les migrants, ça n'a pas du tout été ce que je pensais faire. Je pensais plutôt photographier des gens dans la jungle de Calais, et il se trouve que quand j'y suis allé, en fait, la jungle avait été déjà à l'époque évacuée de ses occupants, il n'y avait personne. Donc j'ai photographié des paysages dans lesquels on pouvait voir la présence effectivement de gens qui s'y étaient installés dans le passé. Mais en allant là-bas, j'apprends que à Paris, par des associations qui travaillaient à Calais, il y avait un jardin, le jardin Villemain, dans lequel se retrouvaient les Afghans qui passaient par Paris avant d'essayer d'aller en Angleterre. Donc j'y vais, et c'est là que je les vois à l'époque dans le jardin Villemain, et que je décide du coup de les photographier très tôt, mais ça je le savais pas à l'avance, c'est-à-dire que j'ai des informations, je discute, je vais voir, je rencontre des gens. J'avais une idée complètement différente, c'est-à-dire que j'essaye au départ de discuter avec ces Afghans. Très vite je me rends compte qu'il y a une espèce de d'obscénité à essayer d'expliquer que je suis photographe, que j'ai peut-être envie de faire quelque chose avec eux, vu leur urgence et la précarité de leur situation. Et donc, en fait, moi, je me dis, mais en fait, la seule chose, peut-être, que je peux faire, c'est de les photographier quand ils dorment, le matin très tôt, et de travailler de façon complètement sauvage, à l'opposé de celle que je pouvais faire avec les Gorgans, qui est une relation qui se tisse dans les années. Là, je ne sais même pas qui je photographie, et je le fais, j'ai quelques secondes pour faire une photographie d'un corps recouvert d'une couverture ou emmitouflé dans un sac couchage. Donc, mais ça, je le sais pas avant, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment l'expérience du monde, et l'analyse que l'on en fait, les surprises que le monde peut donner, qui permet effectivement d'avancer, de proposer des formes qui n'était pas au départ imaginé.
Pour le travail avec les migrants, vous avez ensuite travaillé avec Jawad, un Afghan, et vous dites « j'ai mis 3 ans à trouver la bonne personne et le bon support ». Pourquoi ? Parce que c'était quoi le désir de départ et...
En fait, donc c'est encore une fois, je ne pense faire que des photographies au départ, et je trouve assez beau la dimension silencieuse et l'absence, en fait, la présence et l'absence de ces corps. Mais en même temps, très vite, je me dis que ça ne peut pas suffire et qu'il faut trouver une façon de mettre des mots sur ces histoires et trouver une façon de construire un récit. Et très vite, je me dis, ce récit, il faut qu'il soit écrit. Mais comment lui donner sa forme? Et donc, j'ai essayé différentes choses. Et en fait, un moment, j'ai trouvé une forme qui était la bonne pour moi, c'était de leur prêter des cahiers d'écoliers. Et de leur demander, donc, sur ces cahiers d'écoliers, qu'ils utilisaient eux-mêmes, en fait, quand ils étaient en France, quand ils apprenaient le français, de faire le récit de leur voyage. Et je trouvais que dans le cahier d'écoliers, il y avait une espèce d'altérité ou d'empathie possible, parce qu'on a tous en commun le fait, un jour, d'avoir dû écrire et apprendre sur ces fameux cahiers d'écoliers. Et du coup, ces gens qui venaient de si loin utilisaient le même support qui fut le nôtre par le passé pour raconter une histoire. Et donc voilà, à un moment, je ne sais plus très bien comment l'idée vient, mais quand elle est là, après avoir essayé différents supports avec différentes personnes, quand je rencontre Jawad, qui en plus est un poète, qui aime la poésie, en tout cas, il est afghan et qui a une très belle calligraphie, qui commence à investir les lignes de ce vieux cahier que je retrouve. Là, je me dis, voilà, là, il y a une forme qui est celle que je cherchais sans très bien savoir ce qu'elle devait être.
Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art qui influencent certains projets, ou en tout cas, c'est certaines disciplines, puisque l'histoire est très présente, et vous avez notamment collaboré avec Philippe Artière sur le travail sur l'hôpital psychiatrique. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines qui sont importantes, d'autres formes d'art, et pourquoi l'histoire ?
Je pense que j'ai toujours aimé l'histoire. Enfant, j'avais des livres d'histoire illustrés avec des beaux dessins. Enfin, les chevaliers me passionnaient. Enfin voilà. Mais c'est toujours, en fait, pour moi, c'est difficile d'établir des hiérarchies. Et c'est vraiment des croisements simultanés de plusieurs choses qui font qu'à un moment, effectivement, naît la nécessité de faire un travail. Mais je pourrais pas comme ça citer un artiste ou même un photographe ou un écrivain ou un cinéaste dont la découverte de l'œuvre aurait été très importante. Il y en a peut-être un dont je pourrais parler, mais qui est important dans mon parcours, qui est Vitali Kanevski, qui est un cinéaste russe, qui a fait un moment, et à l'époque j'étais étudiant en génie civil, qui a fait des films qui ont énormément compté pour moi. Et je me suis toujours promis d'essayer de pouvoir préserver cette espèce de force, de brutalité, de virtuosité incroyable qu'il a dans son cinéma. Je ne prétends absolument pas y arriver, mais en tout cas, voilà, il y a eu la rencontre à un moment, à l'époque où je n'étais pas encore dans une pratique artistique, il y a eu la découverte d'un univers, de la possibilité de dire quelque chose par le cinéma, qui m'ont convaincu effectivement qu'il fallait suivre cette voie. Alors c'était pas celle du cinéma, mais en tout cas ça a été une découverte très importante pour moi.
Très récemment, vous avez travaillé avec un jeune photographe et vous disiez c'est bien parce que sinon c'est très solitaire comme pratique, la photographie. Est-ce que ça parfois ça vous pèse? Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez envie de travailler avec d'autres?
Alors, c'est solitaire dans la fabrication de l'image, c'est-à-dire qu'on est seul à faire une image. Ça n'est pas solitaire dans les gens que l'on rencontre. Effectivement, moi, j'ai toujours l'impression de rencontrer beaucoup de monde, mais effectivement, on est toujours un peu, on a un peu des fils uniques ou des orphelins quand on fait de la photographie. C'est-à-dire qu'on est un peu seul et on est seul à décider de l'image que l'on fait. Quand on fait, mais peut-être aussi comme un peintre quand il est aussi devant sa toile. Mais je pense qu'il y a quand même une vraie solitude dans le travail du photographe. D'autant plus qu'on est confronté à un monde et qu'on est toujours seul. Et voilà. Et alors, la rencontre avec Mohamed Abakar, c'est effectivement quelque chose que je n'attendais pas, mais qui a été, voilà, qui s'est produite et qui est donc la rencontre avec un jeune photographe soudanais qui, lorsqu'il est arrivé en France et qu'il vivait dans des conditions très difficiles, en dormant à Stalingrad dans des tentes, il est allé à Versailles et il a photographié donc des sculptures emmitouflées et protégées l'hiver du froid par des couvertures, donc c'était des photographies qui étaient très belles, et lui ne comprenait pas comment... il découvre ça, il en fait des photographies qui seront très belles, ne comprenant pas comment en France on pouvait protéger les statues et pas les gens qui dormaient dans la rue. Et quand je découvre ces photographies, je me dis qu'elles sont étonnamment proches des miennes, que j'avais pu faire de corps de migrants allongés. Et donc, je le rencontre. Et c'est une très belle rencontre. C'est assez rare en photographie de rencontrer quelqu'un dont on se dit que, a priori, il y a tout qui nous sépare. Enfin, il est beaucoup plus jeune que moi. Il vient du Soudan, d'une culture qui est très différente. Et à un moment apparaît manifestement une préoccupation qui pourrait être commune. Et donc, voilà. De ce constat-là, effectivement, à un moment, on essaye, enfin, c'est ce qu'on essaye de faire tous les deux ensemble, d'établir la possibilité d'un travail commun où chacun continuerait à faire ses photographies, mais en dialogue avec celle de l'autre. Donc voilà, il y a plusieurs étapes. Il y a eu une première exposition, effectivement, au Collège de France, dans le cadre d'une résidence que j'ai en ce moment, qui mettait en perspective les deux travaux. Mais on a la volonté de continuer. Et pourquoi pas d'essayer de refaire son voyage à l'envers, c'est-à-dire de partir de Paris, d'aller jusqu'au Soudan, chacun faisant des photographies de son point de vue.
Et à quel moment on sait qu'une œuvre est terminée ? Parce que les Gorgons, vous ne les avez plus vus pendant à peu près 10 ans, puis retrouvés. Et puis les enfants qui sont dans les photomatons dans les années 90 sont ceux que vous retrouvez dans la série des Hurleurs. Sont certains ceux dans la série Le Feu quand une caravane est en feu en 2013, enfin beaucoup plus récemment. Donc vous avez du mal à les quitter, ou en tout cas vous êtes fidèle à cette famille. À quel moment ça s'arrête, et est-ce que ça doit s'arrêter?
Ben, je ne sais pas. De toute façon, il n'y a jamais d'autre moteur que celui de l'envie, de la nécessité. Donc il est bien difficile de savoir le temps que ça va durer, si ça ne s'arrêtera jamais, ou quand est-ce que ça va s'arrêter. Là, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être une boucle quand même qui s'est refermée avec cette exposition et le livre qui a été fait, Les Gorgons. Mais pour moi, c'est un travail qui ne sera jamais fini, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais fini. Un jour, il s'arrêtera parce que les gens disparaissent, et moi le premier. Mais en tout cas, c'est pas un travail dont je peux envisager qu'il sera fini. Je pense que tant qu'ils sont vivants, en fait, la moindre des choses, ça sera de continuer à dire qu'il doit continuer à exister, ce travail. C'est un peu différent d'autres travaux où, effectivement, sur la question de l'enfermement, de la prison ou du logement, à un moment, je me dis, bon, voilà, il faut... J'ai l'impression que j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. J'ai souvent tendance à dire qu'il faut essayer d'épuiser, de plonger, d'aller le plus loin possible. En fait, ce qui se passe, véritablement, c'est qu'on s'épuise soi-même. Et à un moment, on a l'impression que... Voilà, enfin, on en a marre, quoi. Il faut faire autre chose. Et moi, c'est ce qui peut m'arriver quelquefois. Donc, quand j'ai ce sentiment-là, ça veut dire qu'il faut passer à autre chose, et surtout il ne faut pas devenir le spécialiste d'eux. Je continue à dire que je suis un amateur de la photographie et que tout ce que je fais, je le fais pour le plaisir, et qu'il est très important pour moi de ne pas dépendre financièrement de ce travail, pour que bien souvent, et c'est arrivé, on me propose de faire des projets dans les grands ensembles, on peut me proposer, enfin voilà, puisqu'à un moment on est identifié comme le photographe d'eux, et c'est là où ça peut effectivement devenir un peu dangereux, parce qu'on prend des habitudes, on instaure une zone de confiance et on finit peut-être par répéter des choses que l'on a déjà fait avant. Donc voilà, moi je dis tout le temps, je n'ai pas une pratique professionnelle de la photographie. Ce ne sont jamais rien d'autre que des projets personnels que je fais. Et quand l'envie n'est plus là, bah, ça veut dire qu'il faut passer à autre chose.
Vous vous présentez comme un photographe amateur ?
Oui, dans le sens où c'est un plaisir, une passion. Enfin, on me pose des fois la question de savoir si je me définis comme artiste, comme photographe, et comme photographe, est-ce que je suis plasticien, est-ce que je suis documentariste. Enfin, je pense que ça n'est pas important, en fait, ces questions. Et où ce qui est important, c'est de sortir de ces questions et de produire un objet, justement, qui est un peu transversal et qui peut finalement avoir des usages très différents, qui peut peut-être intéresser des urbanistes, des architectes, des historiens, des sociologues. Et que, en tout cas, moi, j'ai aucune réflexion sur la définition que je devrais avoir de mon activité, de la façon dont je devrais me présenter. J'en ai pour le travail que je fais, je peux parler du travail. On peut dire que je suis archiviste, un peu historien, un peu photographe, mais bon, finalement, tout ça n'est pas, je pense, très important.
Et quand on dit que votre travail est politique, ça, vous êtes d'accord ?
Non, mais bien sûr, il s'inscrit dans un monde, il pose des questions, et c'est un monde qui est quelquefois en proie à des tensions, à des mouvements. J'espère que ce travail permet aussi, par le fait de le donner à voir, de le représenter en se posant des questions, permet peut-être aussi de penser autrement le monde, en tout cas de se poser des questions. Je ne donne aucune réponse, mais en ce sens-là, il est politique, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une société, dans un temps présent, même s'il est souvent mis en perspective avec un passé plus lointain. Mais en cela, oui, c'est un travail politique, parce qu'il est... Enfin, moi, je dis tout le temps que je suis pas grand-chose en face du monde que je photographie, et que le monde sera toujours beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant et beaucoup plus beau que l'image que l'on peut en faire.
On a l'impression aussi que la famille des Gorgans, ce travail-là avec eux, est le témoin de l'évolution de votre pratique photographique. Dans les années 90, c'est des portraits en noir et blanc, assez classiques finalement peut-être, ou en tout cas reliés à des photographes, de la photographie documentaire que vous aimez. Et ensuite, tout ça évolue. Il y a aussi leur propre photographie à l'intérieur qui s'insère. Comment vous observez l'évolution de cette pratique dans ce travail-là sur plus de 20 ans?
Le grand plaisir en fait, que j'ai eu, et là encore une fois, c'est vraiment en les retrouvant 10 ans après les avoir quittés, et en voyant ce qu'ils étaient devenus, et en voyant le temps qui passe, et en me rendant compte que pendant 10 ans, je n'avais pas fait de photographie, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'en fait, la vie était quand même tellement plus forte que les images, qu'il fallait peut-être aussi que moi, je repense autrement mon travail et que je le démonte complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, jusque-là, j'avais une façon assez sérielle de le présenter. Il y avait des hurleurs, il y avait des photomatons, il y avait des photographies noir et blanc. Et après, je me suis dit, mais en fait, ils sont beaucoup plus forts que l'idée que je me fais d'eux ou que la façon que j'avais de les représenter. Et donc, il faut rabattre complètement les cartes. Et il ne faut plus être dans une logique de photographe et de pratique, mais il faut être dans une logique de personnage, en fait. Dorénavant, c'est Giovanni, un peu comme si Giovanni me disait, écoute Mathieu, c'est fini maintenant, hein, tes photos noir et blanc, moi je ne veux plus être avec les autres en noir et blanc, je ne veux plus être avec les autres en photomaton, c'est moi Giovanni, je prends toutes mes photos hein, et je me fais mon mur avec, et voilà. Et donc y a un peu cette idée de démonter une logique et de la remonter autrement, et d'associer effectivement des corpus qui a priori ne devaient pas l'être, et d'y associer leurs images qu'ils avaient faites pendant 10 ans. Là, ça a été une chance que certaines d'entre elles soient préservées. Et du coup, de dire que finalement, la question la plus importante aussi, c'est pas tant de savoir à un moment qui est le photographe, qui est l'auteur, mais plutôt comment on construit un récit. Et là, en l'occurrence, c'est un récit qui se construit avec eux et leurs images notamment.
Et à qui elles s'adressent, ces images et ces photographies, puisque vous n'avez pas envie de vous adresser au seul milieu de l'art contemporain, comme vous dites souvent?
Alors, c'est une question que je ne me pose jamais, et je dis tout le temps aux gens qui font des choses, quels qu'ils soient, ne pensez jamais aux autres. Ne pensez jamais aux spectateurs, ne vous posez jamais la question de savoir si ça va intéresser ou pas, parce que si vous posez cette question, c'est fini. Donc moi, je l'ai fait pour moi avant tout. Mais après, il faut aussi que eux s'y retrouvent et qu'ils puissent se réapproprier les photos. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que moi, quand je fais une exposition ou un livre avec eux, enfin, je le fais avec eux, je le fais pas sur eux. Et donc il faut qu'ils s'y retrouvent. Donc ça, c'est une première chose. Et après, les gens, ça, je ne sais plus, en fait. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où une photographie, enfin, une exposition est accrochée, bah, ça ne m'appartient plus. C'est-à-dire que et c'est important, d'ailleurs, que je ne sois plus là pour raconter l'histoire. Et je pense que, bon, là, nous sommes en train de faire un entretien. Je vous parle de ma pratique, mais je pense qu'il ne faut pas trop écouter les artistes, en fait. Je pense que des fois, il ne faut pas trop lire les textes d'introduction dans les expositions. Et moi, je crois que ce sont les œuvres qui parlent, en fait, que ce sont les photographies qui parlent. Et j'ai quelquefois tendance à penser qu'il ne faut pas non plus que, surtout pas que je sois là pour raconter la petite histoire et pour dire à quel point les choses sont belles et que d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans les photographies. Il faut que les choses fonctionnent d'elles-mêmes. Donc la question du spectateur, pour moi, elle ne se pose pas, même si bien sûr j'ai des retours de gens qui voient les expositions. Et surtout, et là c'était le cas dans l'exposition à Arles avec les Gorgans, eux ont investi physiquement les lieux. Donc là, j'ai eu beaucoup de retours de leur part et d'autres gens que je ne connaissais pas qui m'ont écrit en me racontant leur expérience de spectateur de cette exposition avec les Gorgans, avec des réussites plus ou moins importantes. Enfin bon, c'était des histoires assez drôles en tout cas à chaque fois. Donc voilà, là j'ai eu des retours, mais sinon c'est pas forcément une question que je me pose beaucoup.
Et le dialogue avec les spectateurs de vos photographies, de vos expositions, ou les questions qu'ils peuvent avoir? Pour vous, ça vous intéresse pas?
C'est, 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 C'est compliqué. Enfin, si, ça m'intéresse. Et évidemment, je suis content quand on me dit. Et ça a été le cas avec l'exposition sur les Gorgons. Ça a été très fort. J'ai eu des retours vraiment. Beaucoup de gens m'ont écrit. Ça a été vraiment une expérience très forte. Et j'en étais très heureux de tous ces retours que j'ai eus. Mais je peux aussi, des fois, avoir des mauvais retours. Et je peux avoir des gens. Qui ne comprennent pas, qui se posent plein de questions. Et il faut que je me protège aussi de ça, parce que ça devient très compliqué, en fait, quand on commence à être, d'une certaine façon, trop sensible à ce que les gens peuvent penser. Et moi, j'essaye déjà, avec la famille, de construire quelque chose. Dans mon entourage, j'ai énormément de... Enfin, j'ai des gens sur lesquels je peux m'appuyer, dont je sais que j'aurai toujours un retour qui sera très honnête et direct, mais je sais que ça a pu m'arriver quelquefois d'avoir même de faire face à une certaine violence par rapport aux images que je pouvais faire, et en me posant la question de savoir s'il fallait que j'y réponde, s'il fallait que j'explique, s'il fallait et quand ça s'est très peu produit, mais quand ça s'est produit, j'ai préféré me dire que c'était la seule réponse, c'était les images, en fait.
C'était à propos de quelles images?
Bah, sur les Gorgons. Il y a eu un moment. Récemment, l'exposition qui a circulé, il y a eu effectivement un collectif qui s'est créé de gens se disant proches de ces communautés et qui, a pris la parole pour exprimer à quel point, sans doute, je manipulais les gens et que la représentation que j'en faisais était honteuse, voilà, en développant. Et là, je me dis, si je commence à rentrer là-dedans, c'est fini, quoi. Moi, ce qui compte, c'est qu'avec les Gorgons, que notre relation continue, que la confiance soit entière, qu'on soit dans cette relation de transparence d'une certaine façon. Mais après, tous les retours qu'il peut y avoir, je m'en méfie. C'est comme quand une photographie est vendue. Des fois, il vaut mieux pas savoir à qui elle est vendue et où est-ce qu'elle finit, la photographie, parce que c'est pas forcément intéressant, et puis ça peut être perturbant des fois.
Et il y a les photographies fantômes que vous n'avez pas pu faire, que vous n'avez pas faites. Est-ce qu'il y a des œuvres que vous aimeriez retoucher ou que vous feriez différemment aujourd'hui?
Ça m'est arrivé. En fait, la seule fois où j'ai réactivé, où j'ai fait exister le fantôme, en fait, c'est quand j'ai fait une série qui s'appelait Le Feu, où il y avait une caravane qui brûlait, et donc j'ai photographié la famille autour du feu. C'était des images que je voyais à l'époque, donc. Dans ces familles que je photographie, il est quelquefois de tradition de brûler la caravane du défunt, qui était le dernier propriétaire de la caravane. Et donc je voyais ces images, mais à l'époque, quand je les voyais, je ne me sentais pas de les photographier, parce que c'était un moment douloureux, difficile, et je ne voulais pas être photographe à ce moment-là. Et donc, à un moment, j'ai réactivé ça, et j'ai moi-même fait brûler une caravane. Qui était une caravane des Gorgons, qui m'ont revendu. Bon, enfin bon, bref, c'est tout. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Mais il peut quelquefois arriver quand c'est. Là, c'est juste une image, en fait, qu'il s'agit de réactiver, de le faire. Par contre, des fois, c'est un moment qui se passe qu'on ne peut pas réactiver. Là, il est perdu. On ne peut rien faire d'autre que de le regretter et de s'en vouloir.
Il y a une question qu'on pose souvent dans les masterclass sur France Culture, Mathieu Pernaut, c'est est-ce qu'on progresse dans son art? Quel sentiment vous avez?
On évolue, je ne sais pas si on progresse, il faut essayer de ne pas régresser. Moi, je vois souvent, il m'arrive de voir des œuvres qui ont une fulgurance, c'est vrai, c'est assez vrai chez les photographes d'ailleurs, qui ont un moment, il y a une histoire qui tient une situation, à un temps, à une rencontre, il y a quelque chose d'incroyable qui se produit, et ce qui vient quelquefois après n'a plus cette force-là. C'est pas une régression, mais il y a effectivement quelque chose des fois qui peut partir. Bon, moi je pense qu'il faut le vrai moteur, en fait, c'est l'énergie que l'on a véritablement pour faire des images. Je sais que je l'ai pas toujours eu, cette énergie, des fois, et j'ai arrêté de faire des photographies parce que j'avais plus le sentiment d'avoir grand chose à dire. Je pense qu'il faut sentir quand cette énergie-là, il faut lui donner les moyens d'exister. Il faut pas trop la contrarier. Il faut trouver la bonne façon de la rendre possible. Et après, on évolue. Je crois pas qu'on progresse, mais en tout cas, on évolue. On a une expérience. Le temps passe. Et quelquefois, il se trouve que ce temps qui passe, moi, c'est le cas avec les Gorgons, fait qu'effectivement, l'expérience devient plus forte. Parce qu'il y a effectivement quelque chose d'unique qui se construit dans la durée et qui ne peut pas se faire juste dans l'instantané photographique.
Ça a quelle importance, les prix? Est-ce que vous y êtes sensible? Vous avez reçu le prix Nadar en 2013 pour le travail autour de le livre L'asile des photographies et le prix Niepce en 2014. Et là, il remettait le prix à l'un des meilleurs documentaristes français actuels au service de questionnements à la fois sociaux et théoriques.
Ça fait plaisir. Enfin, là, je vais pas faire. Évidemment, ça fait plaisir. La reconnaissance. Je suis le premier à dire, à mes amis ou à mes élèves en école d'art qu'il faut pas être trop sensible aux critiques des autres. Il faut faire avant tout les choses pour soi. Mais évidemment, quand on est honoré et fêté, on en est heureux. Donc, voilà. Après, moi, je pense que justement pour avoir fait beaucoup de sport avant, je pense que que l'art, c'est le contraire du sport et qu'on n'est pas là pour gagner des médailles et que établir des comparaisons, le prix Marcel Duchamp, on met 4 personnes en compétition et on va décider que, je trouve que c'est toujours très compliqué de dire qu'il y a un vainqueur et il y a des choses qui ne sont pas comparables et voilà. Donc, je me méfie de cette chose aussi. Mais évidemment, il se trouve que quand on a un prix, on est content d'avoir.
Et aujourd'hui, Mathieu Pernoud, est-ce que vous avez envie de corps, de visage, d'humain à l'intérieur de vos photographies?
En fait, j'ai envie de voyage comme expérience. Je ne suis pas sûr de faire de bonnes photographies, mais j'éprouve le besoin de sortir finalement de cette pratique qui a toujours été la mienne, où j'ai toujours photographié, même si c'était des réalités exotiques, j'ai toujours photographié des choses qui étaient à côté de chez moi. Je n'ai jamais voyagé, sauf une fois, voilà, quand j'étais en Roumanie, mais c'était il y a 20 ans maintenant. J'ai envie justement de me mettre à l'épreuve de cette pratique-là, qui n'est pas du tout la mienne, de l'ancrer quand même dans ma logique, hein, quand... Ça serait un voyage, par exemple, avec Mohamed Abakar. Enfin, voilà, c'est pas, je pars pas comme ça n'importe où, n'importe comment. Mais c'est plus de ça dont j'ai envie. C'est aussi un peu d'une rupture, en fait, avec la façon que j'ai eu de travailler jusqu'à maintenant. Est-ce que ça sera des lieux? Est-ce que ça sera des corps? Est-ce que je le sais pas encore? Mais en tout cas, je veux surtout que ce soit, il faut partir, en fait, je crois.
Et photographie, documentaire, vous aimez ces deux mots-là?
Oui.
Ça correspond.
Oui, alors c'était très galvaudé. Enfin bon, il y a tellement d'ouvrages, de réflexions, de débats sur la question de la photographie documentaire, qui en serait à l'origine, de qui en serait l'héritier, de ce que ça veut dire. Voilà, donc moi je n'y réfléchis pas forcément beaucoup, mais c'est vrai que si je devais me reconnaître dans une filiation dans l'histoire de la photographie, c'est celle de la photographie documentaire. Qui commence au 19e siècle en France, notamment avec des gens comme Adjé, Marville, voilà, et qui va peut-être jusqu'au Becher, qui sont pour moi les derniers véritables photographes documentaristes, enfin en tout cas dans cette tradition de la photographie qui a existé jusqu'à l'apparition du numérique, où je pense qu'on a basculé dans une autre histoire. Et donc là, effectivement, intellectuellement et affectivement, je me sens inscrit dans cette histoire-là, même si après, quand on voit ce que je fais, il y a... Bon, voilà, je pense que j'en suis assez loin aussi dans le résultat.
Merci beaucoup, Mathieu Pernoud, pour cette masterclass.
Ben merci à vous.
C'était la masterclass de Mathieu Pernoud avec Aurélie Charron. Attaché de production, Nathalie Lempereur. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Clotilde Pivin.